Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est une to-do list un peu particulière qui s'étale en une de l'hebdomadaire américain Bloomberg Business Week. Une liste qui incombe au président Emmanuel Macron, dont le visage apparaît sur cette même une. Petit 1, être élu, c'est fait. Petit 2, impressionner Angela Merkel, c'est fait. Petit 3, tenir tête à Donald Trump, c'est fait. Ce qu'il reste à faire, selon cette couverture de magazine, c'est remettre la France sur pied et enfin sauver l'Europe. Une liste ironique qui dépeint Emmanuel Macron en président de la République programmé pour régner sur le monde. Mais encore faudrait-il qu'il ne brûle pas ces étapes-là que sont la France et l'Europe. Un rappel à l'ordre formulé par une partie de la presse américaine en ce jour de rencontre présidentielle à la Maison-Blanche. Visite annoncée comme amicale mais qui a surtout pour but affiché de convaincre le président Trump de ne pas se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Visite qui se tient une semaine après des frappes conjointes en Syrie menées par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Un contexte particulier donc dans lequel le président Emmanuel Macron semble vouloir s'imposer sur la scène internationale aux côtés des grandes puissances que sont entre autres les États-Unis et la Russie, tout en étant plutôt isolé sur la scène européenne. Alors la France a-t-elle vocation à être le gendarme du monde et surtout en a-t-elle les moyens ? C'est notre sujet du jour avec trois invités ce soir pour en parler. François Hesbourg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez pour la Fondation de la Recherche Stratégique, vous présidez l'Institut International des Études Stratégiques à Londres ainsi que le Centre de Politique de Sécurité à Genève. En face de vous pour en parler, Vivien Pertuso, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, l'Institut Français des Relations Internationales, où vous êtes spécialisé dans les questions européennes et de sécurité. Et notre troisième invité, c'est Agnès Levallois, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je sais que votre emploi du temps ce soir était plutôt serré. Vous êtes consultante et spécialiste du Moyen-Orient et vous êtes vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée et Moyen-Orient. Vous êtes également maîtresse de conférences à l'ENA et à Sciences Po. Alors on va partir de l'actualité du jour, je viens de le dire, la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis, visite qui doit durer 3 jours. C'est le premier chef de l'État, Emmanuel Macron, à être reçu à la Maison-Blanche depuis l'élection de Donald Trump, avec ce qualificatif d'amical qu'on peut lire dans les journaux. Il y a même le terme de bromance qui apparu dans le New York Times, mot valise entre brother, le frère et la romance. Ils se parlent tous les deux comme deux vieux potes en titre de Libération. Alors il y a un caractère complètement exagéré sur cette amitié, sur le caractère privilégié de cette relation. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il besoin d'affirmer cette bonne entente aux yeux du monde, François Hesbourg ?
Oui, écoutez, je ne suis pas sûr qu'il soit là pour affirmer la bonne entente avec le reste du monde. Il a quand même assez tendance aussi à rappeler leur fête à ses interlocuteurs. Avec Trump, ça avait commencé de façon assez viril, pour autant que je m'en souvienne. Et quant à Vladimir Poutine, il lui avait savonné la tête de façon extrêmement vigoureuse à Versailles. Et quant à Erdogan, dans mon souvenir, il lui avait dit grosso modo, si tu espères entrer un jour dans l'Union Européenne, tu peux toujours courir.
Ce qui ne l'empêche pas, par ailleurs, de vouloir entretenir les meilleures relations possibles avec ses interlocuteurs.
Donc je pense que la façon dont vous posiez la question de votre émission, c'est-à-dire est-ce que la France devait être le gendarme du monde, est peut-être plus juste que celle de savoir si Macron doit être le copain de tout le monde. En politique étrangère, on n'est pas le copain de tout le monde, on n'est jamais le copain de tout le monde.
C'est pourtant comme ça qu'il se positionne aujourd'hui.
Non, il se positionne comme celui qui veut parler avec tout le monde.
Et c'est, qui veut convaincre.
Et c'est pour cela qu'effectivement, vous êtes amené, vous, à poser la question de savoir si la France peut être le gendarme. Bon, la réponse courte, c'est évidemment non. La France n'est pas une superpuissance, et ainsi de suite. Mais le simple fait que la question se pose montre quelque part que Macron a réussi un doublé assez intéressant. D'une part, effectivement, il est le seul responsable européen à pouvoir parler substantiellement, en même temps, si je puis dire, à Trump, à Poutine, à Sissi, à Erdogan. Ça, c'est l'homme qui peut chuchoter à l'oreille des chevaux, même les plus rétifs. Et l'autre succès, c'est bien entendu le fait que, quoi qu'on en dise Time Magazine, Macron arrive comme le porteur d'un pays en voie de réforme. À juste titre ou non, ça on peut toujours, c'est une autre discussion. Mais il arrive non pas comme quelqu'un qui est à la tête d'un pays subclaquant et en déclin terminal, ce qui était quand même la façon dont le monde regardait la France il y a un peu plus d'un an. On était irrécupérable, hein. On était dans les choux. Et il est évident que la question que vous posiez ne se pourrait pas se poser si Macron était à la tête de ce pays, de ce pays-là. Et donc, effectivement, il y a cette situation très étrange. Madame Merkel ne peut pas parler à Erdogan. Theresa May ne peut pas parler à Poutine. Et ainsi de suite. Et il y a Macron qui sait le faire.
Et à Trump y compris. Cette visite à la Maison-Blanche a pour principal objectif, en tout cas affiché, de convaincre Donald Trump de ne pas se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. C'est un accord qui a été co-signé avec des pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, la Chine. Emmanuel Macron en tant que premier visiteur à la Maison-Blanche. Quel message Donald Trump veut-il faire passer à l'Union européenne en le choisissant comme principal interlocuteur alors qu'il aurait pu inviter d'abord Angela Merkel ou Theresa May, Agnès Levallois?
Il me semble que dans le premier contact très, très fort qu'il y a eu entre Macron et Trump, on l'avait vu à Paris l'année dernière, en juillet dernier, c'est vrai qu'il y a eu une image très forte de cette complicité que le président Macron voulait avoir avec le président américain. Et donc, comme ça vient d'être rappelé, on voit bien que Macron a comme marque de fabrique, si je puis dire, le fait de vouloir parler avec tout le monde. Donc, il parle avec Trump, il parle avec Erdogan, il parle avec les uns et les autres. Moi, la question que je me pose, avant de répondre à votre question, c'est très bien de vouloir parler avec tout le monde, il le faut et c'est une très bonne stratégie, mais pour dire quoi et qu'est-ce qu'on peut faire en parlant avec tout le monde? Et maintenant, la question que vous posiez, c'est qui est plus adressée à Trump. Trump sait très bien que les Français, en tout cas Emmanuel Macron, justement, comme il veut parler avec tout le monde et comme il parle avec tout le monde, il parle avec les Saoudiens, il a dit qu'il voulait parler avec les Iraniens en décidant d'aller à Téhéran, même si la visite n'a pas encore été programmée, puisque celle effectuée par notre ministre des Affaires étrangères, Le Drian, il y a quelques semaines, n'a pas été aussi concluante que prévu pour tout de suite organiser une visite de Macron à Téhéran. Mais le simple fait que le président français ait manifesté sa volonté d'aller à Téhéran, ça montre bien effectivement qu'il est dans cette logique de vouloir parler avec tous les acteurs, même si parfois c'est un peu le grand écart, parce que recevoir le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman tout en disant qu'on veut aller à Téhéran et avant d'aller à Washington parler avec Trump, on voit bien que la situation est quand même un petit peu compliquée et que pour Trump, je pense qu'il a très bien compris qu'effectivement Emmanuel Macron, qui a cette volonté de forcer un peu les choses, on le voit, il est quand même très volontariste et cette volonté de faire bouger les choses.
Il est assez sûr de pouvoir le convaincre sur l'accord du nucléaire.
Alors là, c'est...
Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit.
Oui, on va voir les résultats. Oui. Je serai plus réservée sur la possibilité que cela soit il y a un résultat concret. Mais en tout cas, je pense que Trump ne se trompe pas en voulant parler avec Macron sur cette question nucléaire, parce que les Iraniens ont beaucoup investi sur la France pour que la France, au sein de l'Union européenne, se porte aussi comme le garant, ou en tous les cas, essaye d'entraîner les Européens pour faire en sorte que cet accord soit maintenu et que les Européens ne sortent pas de l'accord. Et c'est vrai que les Iraniens, ces derniers mois, ont vraiment déployé une diplomatie très active pour dire aux Français « on compte sur vous et on compte sur vous pour entraîner l'Europe et faire en sorte que l'Europe ne sorte pas de cet accord ». Donc là, je pense qu'il y a une relation évidente entre les deux.
Alors, pour rester encore un petit peu sur cet accord co-signé par tous ces pays sur le nucléaire iranien et donc Emmanuel Macron qui est en ce moment aux États-Unis, entre autres dans le but de discuter de cela avec Donald Trump. Emmanuel Macron, donc on est à peu près tous d'accord autour de cette table, peut très bien ne pas du tout arriver à convaincre Donald Trump de rester dans cet accord. Est-ce que, Vivien Pertuso, s'il échoue sur ce point, est-ce que son image ne peut pas en ressortir fragilisé, puisqu'il l'annonce, il dit, il peut arriver à le convaincre, il va arriver à lui parler. S'il échoue, quelle image Emmanuel Macron peut avoir à l'issue de ce voyage par rapport à ses autres interlocuteurs sur la scène internationale et européenne?
La première chose, c'est que, effectivement, pour reprendre un tout petit peu ce qui a été dit jusqu'à présent, Emmanuel Macron se positionne comme un leader qui peut, veut et va parler avec tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, et quand il le fait, il le fait en mettant en avant les intérêts plutôt que des valeurs ou plutôt qu'une question d'alliance. Il y a vraiment une question de quels sont les intérêts communs qu'on peut trouver l'un avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant parce que pas forcément traditionnel de la politique étrangère française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pas le seul sujet qu'il va traiter avec Donald Trump.
Oui.
Donc peut-être qu'il va ressortir avec un panier plus ou moins plein, plus ou moins vide. Alors quels sont les éléments qui seront réussis? Ça, c'est très difficile à dire. Effectivement, sur l'Iran, ça semble semble fort peu probable qu'il revienne avec le panier plein. Est-ce que forcément son image en sera entachée? Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que il est suffisamment habile aussi pour arriver à donner l'impression qu'il y a eu du progrès. Et ça, c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron arrive très très bien à faire, pour le moment en tout cas, c'est donner l'impression qu'il y a eu du progrès dans les discussions. Et cette diplomatie volontariste qu'il a démontrée jusqu'à présent est souvent faite comme ça. Ça fait par on avance, on progresse. Alors après, effectivement, à un moment, il va falloir aller de l'avant. Mais en tout cas, s'il arrive avec un panier à moitié plein, il aura quand même réussi en partie sa mission.
Alors, cette visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche s'inscrit dans un contexte international particulier. Une semaine après les frappes françaises en Syrie, conjointes avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont visé des lieux de stockage d'armes chimiques du régime syrien, en représailles à une attaque chimique du 7 avril dernier à Douma. Alors, la France a pris cette décision parce qu'elle a fixé sa ligne rouge à cet endroit précis, attaque à l'arme chimique avérée. Une frappe pour laquelle la France n'a pas du tout attendu l'aval de l'ONU, ni des États-Unis ou de l'Union européenne. Elle a pris cette décision et elle a, en tout cas dans son annonce, elle a entraîné les États-Unis et la Grande-Bretagne derrière elle. Là aussi, il y a une volonté claire, François Hesbourg, de la France de se réinscrire pleinement dans le jeu diplomatique, mais en tant que premier, en tant que leader.
Oui, alors, et plusieurs choses. D'abord, au Moyen-Orient, et Macron, là encore, a de la chance. Et parce que bon, les États-Unis ont marqué leur passage de relais à la Russie en août 2013 avec l'affaire de la ligne rouge. Mmh. Et la Russie ne peut pas tout faire au Moyen-Orient. Elle a rencontré de grands succès par rapport à ses propres intérêts, mais elle ne peut faire que ce que peut faire un pays qui a le PIB de l'Espagne et le budget militaire du Royaume-Uni, la définition de la Russie. Et donc, il faut bien un occidental pour parler au Moyen-Orient. Et comme les États-Unis ne sont pas vraiment de retour, et comme les Britanniques ont d'autres problèmes, et ça laisse la France. Première chose. Deuxièmement, toujours l'affaire iranienne, elle est cruciale. Et ce qui serait incroyable, c'est si Macron parvenait à convaincre Trump. Ça, s'il réussit à faire ça... Et on fera une deuxième émission sur le thème « Est-ce que Macron va être élu pape ?» parce que personne n'y croit. Personne n'y croit. Et en plus, on saura si le panier est complètement vide ou complètement plein le 12 mai au soir. C'est-à-dire, c'est très binaire, et le président Trump certifie ou ne certifie pas que l'Iran...
Date de son ultimatum.
Voilà. C'est,
est-ce que je reste
oui, mais
que
c'est
je
un ultimatum qui se matérialise de façon extrêmement simple. Et s'il ne signe rien, c'est la fin des accords nucléaires iraniens du point de vue des États-Unis. Et s'il signe, les accords restent en place. Là, on est dans du binaire à l'état pur. Macron n'a rien à perdre dans cette affaire. Et effectivement, il fera ce que vous venez de dire. Et il va jouer sur d'autres terrains. Et la Syrie, vous en parliez.
Oui.
Macron a dit lors de son interview avec Bourdin et Plenel qu'il avait convaincu Trump de maintenir l'engagement des États-Unis en Syrie.
Ce qu'a réfuté Donald Trump.
Et j'allais dire, je ne sais pas quelle mouche a piqué le président de la République, parce qu'effectivement, rien de ce qu'on entend de Washington permet de le penser. Mais s'il l'a dit, c'est qu'il a peut-être, il a peut-être des billes. Hein,
ou alors c'est une question de positionnement.
Il faut faire très attention
dans l'échiquier international sur ce terrain en Syrie.
Parce que Trump lui-même sait ne pas abattre ses cartes tout de suite. Il fait parler les cas échéants d'autres qui disent mais non, c'est pas vrai. Mais effectivement, avec les frappes, quelque part, les Français et les Américains sont revenus dans des conditions très dégradées, mais ils sont revenus à la situation d'août 2013 et marquent le fait qu'ils sont prêts à revenir dans le jeu politique.
C'était ma question suivante que je vais poser à Agnès Levallois pour compléter. Comment justement cet épisode d'entrée dans le jeu de la France par ses frappes en Syrie peut faire évoluer la relation entre la France et les États-Unis ?
Alors, ce qui me semble important, c'est que c'est vrai que pour la France, le fait d'avoir mené ces frappes en Syrie avec les Américains, avec les Britanniques, est un élément très important. On se souvient du traumatisme de l'épisode de août 2013 où le François Hollande, président français à l'époque, voulait intervenir et que les Américains ne voulant pas, il y a ce recul. Et ce qui a permis le retour en force de la Russie sur le dossier syrien au détriment de la France, mais aussi des autres acteurs occidentaux qui jusque-là quand même s'intéressaient à ce qui se passait en Syrie. Donc il y a eu, j'allais dire, pratiquement une éclipse de la France, en tous les cas, pendant 5 ans, même s'il y avait des déclarations régulières pour dire que nous étions intéressés et que nous nous intéressions toujours à ce dossier. Et que là, le fait d'avoir participé à ces frappes marque vraiment un retour de la France, une volonté, en tous les cas, de revenir dans le jeu politique. Il me semble simplement que si on a fait ces frappes avec les Américains, pour les Américains, effectivement, il était tout à fait évident qu'il fallait intervenir militairement. En revanche, je suis beaucoup moins convaincu que les Américains veuillent revenir dans le jeu politique en Syrie. Les Américains ne sont pas intéressés par le dossier syrien et on le voit depuis le début de la crise syrienne. Les Américains sont préoccupés avant tout par la situation en Irak. Ils ont été évidemment mobilisés pour la lutte contre l'organisation État islamique. Maintenant, ils sont préoccupés par l'accord sur le nucléaire et donc on voit bien cette échéance du 12 mai. Mais le dossier syrien ne fait absolument pas partie des priorités de la diplomatie américaine. En revanche, c'est une priorité pour la diplomatie française qui essaye à travers ses frappes de revenir dans le jeu politique. Et là, je suis beaucoup plus...
Et qui ne pourrait pas continuer ses frappes de toute façon parce qu'elle n'en a pas les moyens. La France n'a pas les moyens de continuer.
Non, toute seule, elle ne peut pas faire grand-chose. Et surtout, je crois que ces frappes, même si... Alors, je pense qu'il fallait y aller. Je veux dire, à partir du moment où le président avait parlé d'une ligne rouge, il fallait respecter cette parole qui avait été donnée à la différence de ce qui s'est passé en 2013. Donc, il fallait intervenir. Néanmoins, ces frappes ont été quand même extrêmement limitées. Non pas que je sois en faveur systématiquement d'intervention extérieure, ça n'est absolument pas le cas. Mais les frappes ont été tellement limitées que je suis réservée sur l'impact que ça a eu. Et est-ce que ça va vraiment permettre un retour de la diplomatie? Parce que l'objectif de tout ça, c'est d'arriver à un règlement politique. Est-ce que ces frappes vont permettre un retour du politique? Je suis, pour l'instant, en tous les cas, assez réservée sur les conséquences. Même si, je le répète, je pense qu'on n'avait pas d'autre choix. Il fallait y aller.
C'est ça, c'est la question de cette question de la divergence entre la France qui frappe avec les États-Unis mais qui après veut mettre tout le monde autour d'une table et les États-Unis qui voudraient bien faire rentrer ses troupes et laisser les autres s'en occuper. Qu'est-ce que ça dit d'une relation diplomatique à long terme, Vivien Pertuso, entre la France et les États-Unis?
Alors, il y a un élément qui est assez fondamental, c'est que depuis environ 5 ans maintenant, la relation franco-américaine est très forte d'un point de vue militaire. Et d'un point de vue du renseignement. Ça s'est beaucoup joué notamment au Sahel et également au Moyen-Orient. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental et assez, pas complètement nouveau, mais en tout cas, on n'a jamais eu ce degré de coopération entre les appareils militaires et de renseignement français et américain. Après, d'un point de vue diplomatique, là, la relation est plus compliquée. Elle a toujours été compliquée entre la France et les États-Unis. Il n'y a rien de nouveau. Et là, c'est vrai qu'effectivement, sur le dossier syrien, on a des intérêts diplomatiques et politiques qui sont tellement divergents que finalement, on voit pas vraiment comment ni Emmanuel Macron pourrait convaincre Donald Trump de revenir sur le théâtre politique syrien, ni comment Donald Trump pourrait être influencé d'une manière ou d'une autre pourrait influencer Emmanuel Macron pour dire la Syrie, c'est pas la peine de s'en occuper, Emmanuel.
Et est-ce que l'intérêt de la France sur ces frappes précises de la semaine dernière, c'était une posture d'homme d'État qui agit, une ligne rouge qu'il s'est fixée, donc elle est franchie, on agit, et justement de montrer qu'on est capable de s'imposer dans ce jeu international parmi ces grandes puissances.
En soi, la politique étrangère française a toujours été une politique internationale globale. On fait partie du Conseil de sécurité, donc il y a véritablement cette volonté pour la France de jouer sur l'échiquier international de manière très forte. Et ça se traduit effectivement par des actions diplomatiques, et ça peut se traduire par des actions militaires. Et donc finalement, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est une action militaire comme la France souhaite pouvoir continuer à le faire dans l'avenir. C'est pas véritablement un retour de la France sur la scène internationale qu'une volonté de la France de montrer qu'elle est toujours bien là. C'est surtout ça, en fait, ce qu'on a vu la semaine dernière.
Alors, ces frappes et ce qui se joue en ce moment, ça pose aussi la question de la relation de la France avec la Russie. Le président français a dit que la Russie a construit méthodiquement l'incapacité de la communauté internationale sur le dossier syrien. Il rencontrera tout de même Vladimir Poutine en mai. Il a aussi dit récemment, Emmanuel Macron, que par ces frappes menées la semaine dernière, il a réussi à séparer la Turquie et la Russie, ce qui n'est pas vérifié, ce qui ne s'est pas démontré. Est-ce qu'Emmanuel Macron est assez clairvoyant sur le maillage diplomatique actuel pour en devenir un acteur incontournable, François Hesbourg ?
Oui, à plusieurs choses. La première, c'est sur la question des actions militaires françaises. Je suis personnellement convaincu que si Trump ne s'était pas associé à la frappe en Syrie,
Il y serait allé.
Et ça, c'est une nouveauté. Elle est rendue possible en grande partie par l'évolution de nos moyens, à savoir notamment la mise en service à partir de l'année dernière des missiles de croisière navale embarqués sur nos frégates et bientôt aussi sur certains de nos sous-marins nucléaires d'attaque qui permettent de frapper à distance de sécurité des cibles dans la profondeur d'un dispositif. C'est une capacité que la France n'avait pas en 2013. On n'aurait pas pu faire seul l'opération lors du franchissement de la ligne rouge. Aujourd'hui, on a une capacité qui est plus grande. Et encore une fois, faut pas être trop surpris. Je faisais l'analogie il y a quelques instants entre le budget militaire russe et le budget militaire britannique. La Russie n'est pas une superpuissance militaire. Elle dépense pour sa défense un petit peu plus que la France, mais pas beaucoup plus. En boxe dans des catégories en fait assez similaires. Et ce qui veut dire en clair que ce que peut faire la Russie, on peut aussi le faire. Je vous rappelle que la Russie mobilise aujourd'hui en Syrie à peu près le même nombre de soldats que la France avait mobilisé au Mali lorsqu'on est allé en 2013. Ce n'est pas un truc de superpuissance. Première chose. Deuxième chose, oui, la Turquie avait tout de suite dit que c'est Bachar qui avait fait l'opération chimique et c'était de solidariser de la Russie sur ce plan-là. Alors, est-ce que ça portera à de plus amples conséquences ? Ça, je n'irai pas jusque-là.
En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Mais le fait est que Macron a eu raison de noter que la position de la Turquie n'était pas la même que celle de la Russie sur ce sujet quand même relativement important. Et enfin, la visite de Macron en Russie. Et donc, il va y aller à la fin mai, avec dans une main l'affaire iranienne. Et si Macron réussit le tour de force d'empêcher l'effondrement de l'accord du côté américain, Poutine devra le regarder avec un certain respect. Et si Macron a échoué, ben voilà un sujet sur lequel la Russie et la France seront d'accord. Parce qu'on veut que l'accord nucléaire se poursuive. Et autrement dit, il a cette bille-là dans sa discussion avec les autres. Et puis bien sûr, l'intervention en Syrie nous ramène d'autant plus dans le jeu que la Russie a échoué au plan politique dans l'affaire syrienne lors de la dernière réunion politique à Sotchi. Bachar et ses consorts ont tout fait pour empêcher un accord politique de se faire aux conditions russes. Donc la Russie n'y arrive pas, malgré son investissement militaire et politique.
Emmanuel Macron d'ailleurs dit qu'il voudrait arriver à une solution politique inclusive et donc qui contourne les vétos de la Russie et ces réunions tripartites entre l'Iran, la Russie et la Turquie.
Comme dirait l'autre, on verra parce que
ce sont des annonces.
Si quelqu'un croit qu'on peut obtenir un accord politique facilement en Syrie, cette personne-là évidemment se trompe et je ne sais pas si Macron nourrit ce type d'illusion ou non. Mais le fait est...
Ces annonces le laissent penser.
Ben oui, non, c'est pour ça que je suis prudent sur le sujet. Je n'ai pas dit le contraire non plus. Mais tout simplement, les Russes n'y arrivent pas. Et nous avons à nouveau des titres à y être. Ça nous met dans le jeu. Quant à savoir si on jouera intelligemment, si on a les billes qu'il faut, etc., c'est une autre paire de manches. La Syrie est pour les diplomates à peu près l'équivalent de ce qu'était l'agriculture pour l'Union soviétique. Hein. C'est généralement pas source de satisfaction.
La France a-t-elle vocation à être le gendarme du monde? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre dans Du grain à moudre sur France Culture avec Françoise Bourg, Agnès Levallois et Vivien Pertuiseau. Pendant le quart d'heure qui nous reste, j'aimerais qu'on parle d'Europe, de la relation qu'Emmanuel Macron entretient avec l'Union européenne, plus précisément. L'Union européenne ne suit pas Emmanuel Macron. L'Allemagne a refusé de soutenir les frappes. Comment est-ce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, Vivien Pertuiseau, peut faire vivre cette Europe qui protège, pour reprendre ses propres mots?
Alors, il ne faut pas s'étonner que l'Allemagne ne suive pas la France.
Il y a plusieurs raisons à cela, bien sûr.
pour les frappes en Syrie. Et il ne faut pas s'étonner non plus qu'Emmanuel Macron ne soit pas allé à Bruxelles avant de frapper. Alors, ça aurait été très étonnant qu'il le fasse. Aucun président français ne l'a fait auparavant pour ce type de frappe. Je ne vois pas pourquoi il aurait été le premier.
Emmanuel Macron n'a même pas cherché l'aval de l'ONU, donc on ne s'étonne pas
qu'il ne soit pas allé à Bruxelles. Rien de particulièrement étonnant à ce niveau-là. Après, ce qu'il faut bien distinguer, c'est là où pour le moment c'est assez difficile de voir là où Emmanuel Macron veut aller, c'est d'un point de vue militaire. Emmanuel Macron souhaite une Europe forte, une Union européenne forte. Néanmoins, quand on lit ses discours, quand on entend ses discours, même à la Sorbonne, il a parlé de son initiative d'une force d'intervention européenne. Il parle pas forcément d'une initiative qui se trouve à l'intérieur de l'Union européenne. Dans le même temps, il souhaite effectivement que l'Union européenne soit plus forte, qu'elle protège davantage, etc. Il souhaite une Union européenne qui soit véritablement à l'écoute des citoyens, d'où toutes les initiatives qui ont été lancées récemment. Après, concrètement, comment il peut s'en sortir et réunir tous les intérêts qui sont assez divergents? Parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des intérêts qui sont divergents, notamment d'un point de vue diplomatique, avec des pays à l'est de l'Europe qui sont plus intéressés par ce qui se passe du côté du voisin russe, ce qui intéresse moins les Français, en tout cas d'un point de vue militaire ou de défense. Et il y a toujours cette difficulté à intéresser ces pays-là à ce qui se passe au Moyen-Orient notamment. Comment il pourra réconcilier tout ça, c'est un peu difficile aujourd'hui à voir, d'autant plus que c'est un paradigme qui n'est pas nouveau. Qui n'est pas prêt de changer, et malheureusement la culture stratégique européenne qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux est encore assez lointaine.
Et bien, est-ce qu'il pourra un jour, en tout cas en faisant ses preuves sur la scène internationale comme il essaye de le faire en ce moment, est-ce qu'il pourra un jour entraîner derrière lui ces pays de l'Union européenne qui pour l'instant sont réticents à le suivre, à le prendre au sérieux, parce que économiquement ce n'est pas encore ça? Agnès Levallois.
Si je m'intéresse aux pays que je connais, hein, les pays de la rive sud de la Méditerranée, de Maghreb, Proche et Moyen-Orient, on voit bien que les divergences au sein de l'Europe sont telles sur la politique à mener, sur ce que l'on peut faire vis-à-vis de cette région, que je pense la France aura les plus grandes difficultés, en dépit de tout le volontarisme d'Emmanuel Macron, à réussir à rapprocher les positions de l'ensemble des pays membres de cette Union européenne pour véritablement faire une politique permettant de représenter ou d'être un acteur significatif sur cette scène internationale, permettant l'ébauche d'une diplomatie, permettant de régler la question. Si je me réfère simplement à la question syrienne, sur laquelle je travaille beaucoup depuis des années, on voit bien qu'on a des positions quand même qui sont extrêmement différentes suivant les pays de cette Union européenne, et qu'on n'arrive absolument pas aujourd'hui à définir les premiers pas d'une politique permettant justement de pouvoir avoir une position, de pouvoir la défendre face à la Russie, face à la Turquie, face à l'Iran, et permettant d'avoir une place digne de ce nom à la table des négociations et de pouvoir pousser les feux, si je puis dire, pour essayer de débaucher une politique et une solution. Donc, je crois qu'il faut évidemment travailler à cela, parce que la France pourrait jouer vraiment un rôle moteur au sein de l'Europe sur toutes ces questions de diplomatie régionale et internationale. Mais on voit bien qu'on est dans une situation extrêmement difficile et que cette Europe a quand même les plus grandes difficultés à pouvoir se mettre d'accord. Et je ne parle pas du conflit israélo-palestinien, qui est un des conflits de la région pour lesquels on aurait besoin d'une entente européenne pour essayer de relancer une petite négociation ou redonner un peu d'espoir aux acteurs dans la région. Tout ça me paraît pour l'instant, en tous les cas, extrêmement difficile et je ne vois pas tellement sur quelle base on pourrait y arriver.
François Hesbourg, est-ce que vous avez une piste sur quel point la France et les autres pays de l'Union européenne pourraient se mettre d'accord pour avancer vers un message plus européen de la défense?
Non, malheureusement, les grandes avenues sont bloquées, les progrès seront lents, ils seront limités. Le seul domaine dans lequel je vois quelques progrès possibles, c'est dans la rationalisation de l'industrie des défenses européennes, avec la création du Fonds européen d'investissement de défense. Et parce que bon, on a une situation un peu absurde où on dépense tous européens confondus trois fois moins que les États-Unis en matière de défense, ce qui n'est pas normal en soi. Mais où on se débrouille pour avoir 15 fois plus de modèles de véhicules blindés, 5 fois plus de modèles d'avions de combat et ainsi de suite, chercher l'erreur. Nous dépensons comme si nous avions des ressources illimitées, alors que les Américains, qui dépensent beaucoup plus que nous, gèrent leur pactole de façon nettement plus rigoureuse. Mais au-delà de ça, je ne vois pas grand progrès. L'Allemagne est dirigée par une coalition faible, est peu motivée et qui n'a pas la capacité de faire des sacrifices politiques pour intégrer l'Europe économiquement et financièrement suivant les lignes que suggère le président français. Et quant aux pays d'Europe centrale et de l'Est, et ceux-là veulent le moins d'Union européenne possible, sauf s'il s'agit d'empêcher les immigrants d'arriver. Ça, c'est pour le seul rôle où ils voient éventuellement l'Union européenne jouer un rôle positif. Et pour le reste, on est dans le grand écart hongrois ou polonais entre leur volonté de continuer à recevoir les subsides de l'Union et leur refus d'accepter les règles européennes en matière d'état de droit et de démocratie. L'Europe du Sud, l'Italie est dans un état de paralysie politique invraisemblable. Autrement dit, le talon d'Achille de la politique étrangère macronienne, elle est dans le projet européen, parce qu'à partir de 2019, s'il n'y a pas eu de progrès en la matière, 2019 c'est l'année des élections européennes, à ce moment-là, se posera sérieusement la question de savoir...
Et le problème, de comment défendre.
J'allais dire au nom de qui Macron parle, si c'est uniquement au nom de la France, ou aussi, comme il le fait en ce moment sur l'Iran, par exemple, au nom de l'Europe.
Vivien Pertuzot, on est d'accord pour dire que la France et l'Union et les pays de l'Union européenne ne sont pas d'accord sur quoi défendre, mais il y a aussi un désaccord sur comment défendre, là où Emmanuel Macron souhaite une initiative européenne d'intervention autour d'un noyau de quelques pays. L'Allemagne, elle préfère rester dans le cadre d'une coopération structurée, permanente, dans le cadre de l'OTAN. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des discussions à mener pour est-ce qu'un point d'entente est possible?
Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que François Hesbourg disait, il y a une sorte de paradoxe chez beaucoup de pays européens. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez énormément de pays européens qui sont assez hésitants par rapport à la posture française au sein de l'Union européenne, parce qu'ils ont souvent l'impression, à tort ou à raison, que les initiatives françaises au niveau européen sont des initiatives pour franciser l'Europe. Donc ce qui n'est pas totalement faux, ou du moins pour venir en aide aux initiatives françaises, comme on a pu le voir notamment en Afrique. Et donc c'est vrai que la France est très volontariste pour essayer d'attirer les autres sur les initiatives françaises. D'un autre côté, tous ces pays européens sont bien contents quand même que la France prenne des initiatives au niveau international. Pourquoi ? Parce que ça pousse un peu l'Europe à se positionner sur l'échiquier international.
Sur la Syrie, par exemple, c'est pas trop simple.
Alors, sur la Syrie, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un sujet qui est tellement sensible, qui est tellement compliqué. Sur le conflit israélo-palestinien, c'est la même chose. Mais par exemple, sur le Sahel, on a réussi à trouver quelque chose d'assez étrange, où les Européens aimaient beaucoup que la France soit en avant, et étaient prêts à aider la France, et auraient été très déçus si la France s'était retirée du Sahel.
Mais on peut pas qualifier ça de succès non plus. Il y a surtout des moyens alloués à la gendarmerie, aux militaires, mais pas forcément de solutions politiques.
Non, mais pour beaucoup de pays, c'est déjà pas mal. Concernant les autres, la sécurité européenne, l'architecture de sécurité européenne, là, on est dans quelque chose d'assez simple qui s'affirme en France depuis le livre blanc de 2007, c'est-à-dire un pragmatisme très fort où on utilise ce qui marche. Si l'Union européenne, ça marche, on utilise l'Union européenne. Si l'intergouvernemental, ça marche, on utilise l'intergouvernemental. Si l'OTAN, ça marche, on utilise l'OTAN. Et depuis 10 ans, on alterne, on prend ce qui marche au moment où ça marche. Et c'est vrai que, notamment les Allemands, sont beaucoup plus constants. Hein, c'est l'OTAN d'abord. Ensuite, au niveau européen, on essaie d'être le plus inclusif possible. Et on l'a vu avec la coopération structurée permanente qui a été initiée en fin d'année 2017, où il y avait des désaccords franco-allemands. Mais c'est vrai que globalement, là-dessus, la France est devenue très pragmatique, alors qu'elle était beaucoup plus dogmatique il y a une quinzaine d'années encore, où c'était l'Union européenne d'abord et le reste ensuite. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus difficile pour la France d'embarquer tout le monde, parce que chacun aura ses préférences, soit l'OTAN, soit l'Union européenne, alors que la France, c'est ce qui marche.
François Hesbourg posait cette question, à mon sens, importante il y a quelques instants, qui est il faut définir au nom de qui la France parle quand elle le fait au niveau diplomatique. Là, on voit que la France a tendance, à travers Emmanuel Macron, à se mettre en avant et à ne pas forcément se préoccuper de qui il a derrière pour avancer. Est-ce que ça peut être un problème à terme, cette position de leader un peu isolé sur la scène diplomatique, Agnès Levallois ?
Ce que je pense, c'est que sur certains dossiers, ça peut arranger. Ça peut arranger des pays européens qui savent pas très bien quoi faire et qui se disent finalement, la France va au charbon, elle essaye de dire quelque chose, de faire quelque chose, et pourquoi pas. Donc je pense que sur certains dossiers, ça peut peut-être marcher. Sur d'autres, ça marchera moins s'il y a effectivement d'autres interlocuteurs au sein de l'Europe qui estiment qu'ils ont leur mot à dire ou qu'ils sont plus pertinents que d'autres à pouvoir définir une politique. Donc là, je pense qu'on va revenir à ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est-à-dire que ça va être à géométrie variable, suivant les sujets, suivant les thèmes et suivant les capacités de certains de ces acteurs sur la scène européenne à pouvoir être actifs ou non et avoir une véritable possibilité de faire quelque chose.
Est-ce que la France aurait oublié des partenaires importants pour être plus forte sur la scène diplomatique aujourd'hui, François Hesbourg? On parle de la Chine, on parle de l'Inde. Est-ce que ce sont des partenaires qui peuvent compter?
Je veux dire, la séquence macronienne, de ce point de vue-là, a été incroyable. C'est-à-dire, il a Poutine, Modi, Xi Jinping, Erdogan, Mohamed Ben Salman, Trump. Et il a fait la totale. Il les a tous fait et plutôt bien dans chacun des cas. Donc c'est pas là où le bât blesse. Le problème, c'est que en stratégie comme ailleurs, la nature a horreur du vide. Et alors certes, les Français ont historiquement l'habitude de ne pas être particulièrement timides au plan international. On a plutôt tendance à se mettre en avant et Macron ne déroge certes pas à cette règle, mais il est vrai aussi qu'on est aspiré ou on est poussé parfois. Et comme on l'est au Moyen-Orient, l'affaire Hariri, il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait personne d'autre pour aller récupérer Hariri. Si on ne l'avait pas récupéré, il serait probablement mort au pied d'un escalier très glissant en Arabie Saoudite parce qu'il ne savait plus quoi en faire. Et tout à l'avenant, l'affaire iranienne, qu'est-ce qu'il peut encore parler ? Qu'est-ce qu'il peut encore parler à Trump ? C'est pas Madame Merkel, hein, croyez-moi.
Pas aujourd'hui, en tout cas.
Pas aujourd'hui, et pas Madame May non plus. Madame May, vous posez la question de savoir mais pourquoi Macron y va à Washington, etc., pas les autres. Ben, Madame May avait offert une visite d'État à Trump qu'elle était obligée de retirer sous la pression de son opinion publique. Et Madame Merkel
en a beaucoup trop occupée par le Brexit, par ailleurs.
Et donc, effectivement, Macron est aspiré à Washington.
Mais ça veut dire que ça peut ne pas durer, en fait, cette relation privilégiée entre la France et les États-Unis.
Je pense que les Français vont essayer d'engranger un maximum. Et ils auraient tort de s'en priver. Mais c'est vrai qu'on bénéficie pour le meilleur et pour le pire et de ce vide tout à fait exceptionnel, à la fois au plan mondial et au plan régional moyen-oriental.
Eh bien, merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Agnès Levallois, François Hesbourg, Vivien Pertuzot. On peut retrouver quelques-unes de vos publications sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Et c'est sur cette même page d'ailleurs qu'on pourra réécouter cette émission et la podcaster. Merci à Antoine Tricot, à Virginie Leduo, à Fanny Richet, à Prune Saez Contreras qui m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation, c'était Lisco, accompagnée ce soir de Bruno Gagnère-Fontanille.